Et on est toujours en direct dans le cadre de notre journal en ce mercredi 21 juin. Dans quelques instants, on va parler avec Nathanaël Moll, voilà, de ce beau projet hein, qu'il a mis en place. Mais là, juste avant, on va dire quelques mots avec Denis Sabardine. Denis, bonjour, bienvenue sur l'antenne d'Odo Radio.
Oui, bonjour, bonjour Odo Radio, bonjour Jean-Christophe.
Voilà, donc là c'est Joël, hein, Jean-Christophe, voilà, c'est le et à mes côtés. Là c'est Joël. Alors Thierry, on le laisse profiter de sa retraite et de ses vacances. Et avec vous, Denis, régulièrement, eh bien on parlera bien sûr d'UNIAC, le Groupement National des Initiatives des Acteurs Citoyens, histoire voilà d'avoir un petit peu d'actu et puis dire deux mots chaque fois sur les invités. Alors justement, l'actu des Niaqueurs.
Eh bien, l'actu des Niaqueurs, donc on a eu un conseil d'administration là le 13 juin. Donc on a donc dépassé les 500 membres, hein, puisqu'on est 505 à présent. Donc il y a quatre points que je voulais mentionner dans l'actu Niaq. Premièrement, je dirais il y a un partenariat avec l'Institut des territoires coopératifs qui a été fondé par deux Niaqueurs, avec lesquels on va coopérer pour mener en fait pour essayer de comprendre en fait les sous-jacents des coopérations, comprendre l'implicite dans les coopérations. Et le but c'est de faire des petits groupes de travail issus du conseil d'administration, des réseaux locaux, des différents groupes thématiques qui travaillent ensemble pour essayer justement eh bien de trouver des outils pratiques pour renforcer nos dynamiques de coopération entre Niaq et entre les acteurs. Avec aussi pour but, bien sûr, que ça puisse servir à tous les Niaqueurs en interne dans leur propre activité, puisqu'aujourd'hui, on sait bien qu'on travaille de plus en plus avec beaucoup d'autres parties prenantes pour réaliser ces projets. Donc ça, c'est une chose qu'on va mettre en place à la rentrée. La deuxième actu de Niaq, eh bien, c'est la mise en place également d'apéroniaques thématiques. À savoir qu'on avait déjà mis en place de temps en temps des apéroniaques, mais à Paris, pour accueillir les nouveaux membres. Là, l'idée, en fait, c'est de toujours dans cette idée de renforcer les coopérations et les rencontres intermembres, de faire ces niaques thématiques ou transverses, avec cette idée de décloisonnement des acteurs, mais aussi des secteurs, puisqu'on sait que beaucoup de sujets nécessitent une vision à 360 degrés pour trouver des solutions innovantes ou pour justement trouver des nouvelles élaborer des nouvelles politiques publiques. Donc on a déjà plusieurs thèmes qui nous ont été proposés par des Niaqueurs, hein, puisque l'idée c'est que chaque Niaqueur peut se saisir d'une thématique avec un format un peu standard qu'on a élaboré, mais que voilà, chacun pourra construire cette soirée dans un esprit de convivialité à sa façon, comme il veut et où il veut. Donc on a d'ores et déjà deux sujets qui ont émergé, hein, sur le numérique et les nouvelles formes de travail, hein, l'autre sur l'employabilité et un autre sur l'intégration. Donc voilà, donc je lance un appel, hein, libre à tout Niaqueur, que ce soit à Bordeaux ou autre, de se saisir d'un sujet et d'inviter les membres à débattre et d'approfondir le sujet. Et enfin, il y a bien sûr le lancement du réseau entreprises et territoires, hein, qui se poursuit, un réseau qui est donc incubé en fait par Niaq et qui va poursuit également son développement. Hein, il est tout jeune parce qu'il a à peine 2 mois. Avec cette idée de poursuivre la dynamique de la charte entreprises et quartiers, hein, toujours cette renforcer les coopérations entre entreprises, associations et acteurs publics. Et on va mettre en place un concours justement autour de thématiques comme les nouvelles frontières de l'engagement des entreprises, les démarches collectives d'entreprises et également l'implication dans la durée des salariés ou des agents, si c'est dans le secteur public, dans la conception et la mise en œuvre des projets. Donc il y a toute une dynamique qui se met en place, les acteurs sont très très motivés. Et d'ailleurs, on organisera un séminaire de ce réseau à la rentrée pour phosphorer sur le concours qu'on veut mettre en place. Donc là aussi, appel à toutes les PME, ou même plus grandes entreprises et associations pour qu'elles nous rejoignent, pour qu'on puisse trouver des solutions durables en matière d'emploi et d'insertion d'une façon générale dans tous les territoires fragiles.
Très bien, c'est bien noté, Denis, et puis toutes les infos pour le retrouver sur le site de Niaq également, bien sûr.
Voilà. Oui, alors tu veux peut-être que je présente Nathanaël.
Oui, mais si vous voulez dire de mon Nathanaël, je vais y arriver, hein, j'arrête pas d'écorcher le prénom est en face de moi, mais voilà l'Esprignac, et puis dire quelques mots, bien sûr, avant de retrouver Nathanaël qui va s'expliquer, bien sûr, en direct, hein, toujours sur Odo Radio. Alors en quelques mots, Denis.
Oui, bah Nathanaël que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Bon bah écoute, c'est un hacker formidable qui est super engagé et qui a voilà développé des projets. Voilà, c'est quasi un entrepreneur de série, je dirais. Et bon, on sait qu'il a fondé il y a un peu plus d'un an et demi Singa, hein, qui est une association qui vient en aide aux réfugiés. Eh bien, voilà, comme il vous le dira, il vient de quitter Singa pour se lancer dans un nouveau projet, en fait, qui est un peu plus large que Singa, qui a pour but vraiment de faciliter l'intégration de toutes les personnes étrangères qui arrivent en France. Donc, il a ces petites idées de produits et de services très, très novateurs. Et bah, je vais le laisser se présenter sa nouvelle initiative. Et bien sûr, je lui souhaite vraiment bonne chance et toute l'énergie qu'il lui faut pour réunir encore ce beau projet avec plein d'acteurs différents et au service d'un monde plus solidaire, fraternel, inclusif.
Voilà, Nathanaël, si vous voulez,
Merci Denis, merci.
si vous voulez intervenir, voilà, avec Denis, puis on va parler avec vous, bien sûr.
Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
Voilà, bien merci Denis. Hein. Si vous voulez dire quelques mots, là vous pouvez en direct dire quelques mots à Nathanaël, bien sûr, qui
Bah
nous
écoute,
entend.
bravo, mais je suis content qu'il soit là dans vos locaux et bah voilà, ça renforce les liens et je suis ravi. Donc voilà, bravo, merci en tout cas à toi d'avoir pu venir jusqu'à Odeur Radio.
Non, non, c'est un plaisir et c'est toujours pour moi un plaisir d'aller dans les radios locales aussi et dans les médias locaux pour mieux comprendre aussi un peu tout ce qui se passe localement parce que dans mon travail et surtout ce qui est question d'intégration des nouveaux arrivants, ben, ça se joue très localement aussi et donc pour moi c'est très intéressant de venir dans ce type de lieu.
Très bien. Mais en tout cas, merci Denis. On se retrouve très bientôt, hein, sur l'antenne de
Merci
Radio.
beaucoup à toute l'équipe. Merci, merci
Voilà.
Nathalie. Ouais.
Allez, à
Merci, au
bientôt.
revoir. Au
Voilà,
revoir.
c'était donc Denis Sabardine. Alors Nathanaël, voilà, du coup, je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de vous dire bonjour, bienvenue. Voilà,
Bonjour.
on était avec Denis, mais on est en direct. Alors c'est vrai qu'on va en parler de Singa puis de nouveaux projets, mais en quelques mots, votre parcours, on ne va pas rentrer dans votre vie
Oui.
privée, mais ce qui vous amène, voilà, sur des projets tels que Singa et d'autres certainement, et puis cet esprit niaque, bien sûr.
Bien sûr, alors moi j'ai eu une vie de migrant, c'est-à-dire que je suis né au Brésil. Après le Brésil, j'ai vécu dans différents pays comme le Mali, la Thaïlande, le Sri Lanka. Et en fait, je pense que ce qui a été un déclic pour moi, ça a été le fait que je me suis rendu. Enfin, ça a été le fait qu'il y ait d'autres migrants qui, eux, n'étaient pas aussi bien acceptés que moi ou n'étaient pas aussi bien accueillis que moi. C'est-à-dire que moi, en tant que personne étrangère dans ces différents pays, j'ai été souvent très, très bien accueilli, comme un roi même. Et en fait, à l'âge de 14 ans, j'ai passé plusieurs semaines dans un village de personnes réfugiées karen dans le nord du pays. Et c'est la première fois que je voyais d'autres étrangers qui avaient droit à un traitement différent, qui étaient rejetés par leurs environnements, qui subissaient un certain nombre d'atteintes à leurs droits les plus fondamentaux. Hein. J'avais pu de mes propres yeux voir la police entrer dans une maison, voler des choses et repartir.
C'est
Donc
violent, hein, ces images,
c'est très
quand on voit
violent, et
ça.
surtout quand on a 14 ans.
Et qu'on s'y attend pas
Et
forcément
qu'on s'y
aussi.
attend pas, voilà.
Donc ça fait un double choc, hein.
Et donc c'était pour moi, voilà, cette injustice-là, je pense qu'elle est à la base de mon engagement. Et cette idée que pour moi, en fait, une personne étrangère, quelle qu'elle soit demandeuse d'asile ou expatriée, doit être accueillie de la même manière. Et on doit, voilà. Donc pour moi, tout le monde devrait être un expat. Concrètement, dans notre manière, en tout cas, de percevoir les nouveaux arrivants.
Alors fortement marqué à 14 ans, hein, surtout 14 ans, c'est un âge où on se cherche aussi un petit peu dans sa vie. Voilà, donc c'est ce qui vous amène peut-être quelques années plus tard. Hein, je ne vais pas vous demander votre âge, bien sûr.
J'ai 30 ans, j'ai 30 ans, j'ai pas honte, j'assume.
Voilà, donc et justement, alors. Il y a tout un parcours, hein, bien sûr, on ne va pas raconter toute votre vie, on ne va pas rentrer dans votre vie privée,
Non, non, mais
qui
moi,
plus est. Alors Singa, justement, donc cette belle idée, alors rappelez-nous ou présentez-nous justement ce beau projet.
Oui, bah écoutez, alors comme je vous le disais, donc j'avais rencontré ces personnes réfugiées qui le plus souvent vivaient un peu à l'écart de la société, des sociétés dans lesquelles ils habitaient. Il y avait un vrai, il y avait deux choses. D'un côté, il y avait une dimension très humanitaire de l'accueil des réfugiés qui faisait que ces personnes avaient, on va dire, de quoi survivre, mais avaient souvent pas de quoi vivre. Alors c'est une nuance, mais l'idée c'est
qu'elle est
importante. Elle est importante dans le sens où on ne donnait pas aux personnes les outils dont elles avaient besoin pour pouvoir tout simplement imaginer un futur.
Oui, pouvoir s'épanouir et de pouvoir s'épanouir avoir une vie de citoyen quand on est tous, hein, voilà. Qu'on devrait tous être.
Exactement. Et donc il y avait cette dimension-là, et puis de l'autre côté il y avait le fait que il y avait un vrai rejet de la plupart des sociétés d'accueil. Et nous, on s'est rendu compte que cette situation-là, elle ne faisait qu'empirer les choses. C'est-à-dire que d'un côté, on avait des personnes réfugiées qui se retrouvaient de plus en plus exclues, qui avaient de moins en moins accès au marché de l'emploi, qui ne parlaient pas la langue française parce qu'ils avaient peu d'opportunités de l'apprendre et parce qu'ils n'avaient pas de contacts français. Enfin, vous voyez, un exemple que je donne, mais qui est assez... représentatif, c'est que on a rencontré des personnes réfugiées qui après 5 ans en France ne connaissaient que 3 Français. Le monsieur de la CAF, la dame de Pôle emploi et le monsieur l'assistant et l'assistante sociale de l'association avec qui il travaillait. Donc on s'est dit voilà, ça tout est là pour que ça se fonctionne pas. Nos sociétés n'avaient pas une vision de long terme, n'avaient pas une vision d'intégration des personnes qui arrivaient. Et donc il fallait qu'on fasse quelque chose pour justement changer cette situation là et il fallait aussi bien sûr qu'on fasse évoluer le regard de la société, qu'on arrête de voir les nouveaux arrivants comme un problème, qu'on arrête de le voir qu'on arrête de les voir comme des personnes qui vont venir nous rajouter des problèmes. Voilà, donc il fallait qu'on aborde ça d'une manière différente. Il y avait énormément d'acteurs qui existaient dans ce domaine, dans ce secteur-là, et qui faisaient un travail remarquable, souvent avec très peu de moyens, il faut le noter. Et en fait, nous, on s'est dit, ok, si on veut faire quelque chose, il faut qu'on peut pas faire ce qu'ils font, ces acteurs, parce que premièrement, on le fera jamais aussi bien. Deuxièmement, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous et c'est pas des petits jeunes qui vont arriver, donc faut qu'on fasse les choses différemment. Donc on a créé ce qu'on appelle la communauté Singa. La communauté Singa, c'est un espace de rencontre et de partage dans lequel les locaux vont rencontrer des personnes réfugiées d'une manière totalement détournée. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas parler d'asile ou de migration, mais par contre, on va organiser des rencontres autour de l'art, autour de la musique, autour de la danse, autour du sport, autour de l'entrepreneuriat, autour de la recherche d'emploi. Et en fait, les personnes qui vont être intéressées par ces différents sujets qu'on va aborder vont venir à ces événements et il s'avère qu'ils vont se rencontrer parce que ces événements vont être organisés d'une manière à ce qu'on force les gens à se parler. Donc je vous donne un exemple très simple. J'ai organisé un match de foot à Montpellier dans lequel au lieu d'avoir une mi-temps, on avait des cartons. Et donc entre chaque carton, on organisait une discussion et on organisait la rencontre entre les différents joueurs parce que techniquement, on peut jouer un match de foot pendant une heure sans se parler, hein, c'est très possible. Donc voilà, donc c'est le genre de choses qu'on fait. Aujourd'hui, Singa, c'est une communauté qui a grandi de manière exponentielle. On s'y attendait absolument pas. C'était absolument.
Bon, c'est la force de la conviction, bien sûr. Hein.
Oui.
Et puis du réseau, mais.
Mais pour vous donner un ordre d'idée, en 2015, on est passé d'une communauté de 4000 personnes à plus de 20 000 personnes. Donc ça a été une croissance absolument incroyable et pour nous ça a été vraiment génial d'être aux premières loges, on va dire, de cet engagement citoyen, de voir à quel point les citoyens voulaient vraiment s'engager et qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'organisations comme les nôtres qui proposaient réellement cet engagement là et donc nous on est persuadés que l'engagement citoyen est une composante essentielle de l'intégration des personnes réfugiées, c'est-à-dire que vous et moi qui travaillons dans un secteur donné, on sera beaucoup plus à même à mobiliser notre réseau par exemple qu'un travailleur social qui va être sous l'eau et qui va pas pouvoir et qui va pas forcément avoir le temps ni les compétences pour chercher dans un domaine qui n'est pas le sien. Donc on s'est rendu compte que les citoyens avaient une force et qu'il fallait que l'État utilise cette force aussi. une vraie collaboration en somme. Et je peux vous donner un exemple peut-être qui est assez représentatif.
Oui, je vous en prie, bien sûr.
C'est un programme qu'on a lancé en juin 2015 qui s'appelle Calme comme à la maison, dans lequel des personnes réfugiées vont être mises en relation avec des locaux pour cohabiter ensemble pendant des périodes de 3 mois à 1 an. Et nous, on voulait pas que ça soit du logement pour du logement. C'est-à-dire qu'on voulait que ça soit utile. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du matching, donc une mise en relation avec un algorithme qui nous permet de déterminer, par exemple, on va mettre une personne qui est docteur avec quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'hôpital. Un entrepreneur, on va le mettre en relation avec un banquier, par exemple. Ce matching-là, il est extrêmement intéressant parce qu'il vient s'ajouter, on va dire, à l'accompagnement traditionnel, l'accompagnement social, et ça permet d'obtenir des résultats assez incroyables. Par exemple, sur les 300 premières personnes qu'on a mises en relation lors de ce programme-là, on en a plus de 40% qui ont trouvé un emploi grâce à leur famille d'accueil, ce qui est un chiffre assez impressionnant quand on sait que Pôle emploi, ils sont à 10% sur le même public, et on en a plus de 61% qui ont trouvé un logement pérenne. Et donc ça, encore une fois, c'est un chiffre assez impressionnant aussi. Et en fait, c'est la force de l'engagement citoyen qui fait ça. Et donc, ne pas vouloir tout le temps formaliser et rendre les choses administratives, c'est aussi quelque chose d'important. Et d'ailleurs, bah, ce programme a si bien fonctionné que l'État l'a repris à son compte et a lancé une expérimentation nationale. Et donc, il y a une dizaine d'associations de toute la France qui ont bénéficié de financement pour pouvoir mettre en place ce type de programme localement. Donc, pour nous, c'est vraiment une preuve du bien fondé de notre action.
Tout à fait.
Et si ça, voilà, si ça continue à se développer, je pense que ça sera repris aussi dans d'autres secteurs de l'aide sociale, parce qu'aujourd'hui, les citoyens sont une force incroyable, à condition, bien sûr, qu'ils jouent leur rôle, et leur rôle seulement. Voilà.
Alors, sur l'actu, voilà, sur tous ces beaux projets, donc on en est où en 2017?
Alors,
il y a de nouveaux services, de nouvelles initiatives.
Alors 2017, c'est un peu une année de transition pour nous, parce que comme je vous le disais, on a reçu tellement de sollicitations de toute la France, et on s'est vite rendu compte.
Pouvoir gérer après, hein.
Voilà, on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas en mesure de gérer avec les outils qu'on avait, avec les ressources humaines
Donc,
qu'on avait.
Donc, on trouvait d'autres, en créer
d'autres. Alors, il faut surtout se réorganiser. Il faut qu'on change un peu notre métier, et donc ça, c'est vraiment l'objectif pour nous. C'est de créer des outils dont les citoyens vont pouvoir se saisir eux-mêmes, et que l'équipe qui aujourd'hui est au centre de cette communauté soit plutôt une équipe de soutien de communauté locale. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, dans le futur, on puisse soutenir une association Singa à Bordeaux qui va lancer des actions, et nous, on va partager avec cette association Singa tous nos outils web, toute la formation, tout ce qu'on a pu développer pendant les 6 dernières années et qui ont vraiment fonctionné, pour permettre à ces associations-là de pas commencer de zéro, et surtout de pouvoir passer au vif du sujet dès le début. Donc là, c'est cette période-là dans laquelle on est aujourd'hui, ce qui a fait qu'on a réduit un petit peu le nombre d'événements et de choses qu'on organise au sein des communautés Singa. On est en train d'autonomiser beaucoup plus ces communautés pour qu'elles dépendent moins de nous, de notre équipe. Et voilà, donc bien sûr, c'est le développement de la plateforme web Singa qui sera lancée cette année, si tout va bien, qui permettra notamment de faire cette mise en relation là dont je vous parlais, de manière quasi automatique, alors qu'aujourd'hui c'est 40% de notre temps en termes de ressources humaines, donc c'est assez important. Et puis sinon, 2017, c'est aussi la création d'autres entreprises. C'est-à-dire que Singa, depuis le début, a cette volonté de développer un modèle économique viable qui nous permette d'autofinancer un maximum de nos activités. On s'est rendu compte que la question de l'asile et des migrations était un sujet éminemment politique, et que il y a quelques mois, par exemple, lorsqu'on avait peur que Marine Le Pen puisse remporter les élections, bah, si Marine Le Pen arrivait aux élections, je peux vous dire que les premières associations dont les budgets seraient coupés seraient les nôtres. Donc, on voulait à tout prix développer.
On a vu malheureusement des exemples dans certaines mairies. Hein.
Exactement, oui. Et donc on voulait à tout prix développer un modèle économique qui fasse, qui nous permette d'être indépendants de ce type de financement. Alors ça ne veut pas dire qu'on crache dessus, loin de là, mais en tout cas qui nous permette de nous autofinancer au maximum. Et donc moi, cette année, je suis en train de sortir de l'association Singa pour créer une entreprise sociale qui s'appelle Waya. D'ailleurs, Singa et Waya veulent toutes les deux dire lien. Alors Singa en Lingala et Waya en Swahili, qui sont deux langues parlées en Afrique. Et donc Waya va, comme le disait Denis, travailler sur un sujet beaucoup plus large que le sujet des migrations forcées, hein, qui est abordé par Singa. Nous, on va travailler sur l'accueil des nouveaux arrivants en général. Donc que vous soyez étudiant, que vous soyez en train de rejoindre votre famille en France, que vous veniez en France pour le travail, voilà, quelle que soit la raison pour laquelle vous venez en France, la plateforme Waya vous permettra d'avoir accès à toutes les informations, à tous les services, à tous les produits qui vont vous permettre de mieux vivre en France. Donc un exemple que je peux vous donner, c'est un produit qu'on est en train de développer aujourd'hui qui s'appelle la Waya Welcome Box, à travers lequel on vise à donner aux nouveaux arrivants trois outils essentiels. Une carte bleue avec un compte en banque, une carte SIM avec 10 gigas d'internet et SMS et appels tout illimités, et un numéro hotline qui vous permettra, que vous pourrez appeler soit pour avoir la traduction instantanée, typiquement pouvez-vous expliquer à ce monsieur que j'ai besoin d'un logement, mais aussi pour avoir des informations vous directement concernant tous les aspects de votre vie. Voilà. Et donc cette box par exemple sera vendue à 15€ par mois pour tous les nouveaux arrivants. Alors 15€, c'est, pour vous donner une idée, c'est 30€ de moins que ce qu'un demandeur d'asile aujourd'hui dépense pour son téléphone portable seulement. Donc c'est un prix qui est quand même très très peu cher. Et donc mon travail aujourd'hui, c'est d'aller négocier avec des grandes boîtes pour leur dire, écoutez, nous on a une communauté incroyable de personnes qui veulent s'engager, et donc on peut vous faire participer on peut vous faire bénéficier de toute l'expertise qu'on a nous vis-à-vis de ce public là pour permettre de leur vendre des produits et voilà. Donc ça, c'est juste un des produits que Waya vend. On propose aussi, bien sûr, comme on l'a fait avec Singa, des services à destination de la société d'accueil. Donc on accompagne des entreprises, des collectivités locales, des organismes publics ou parapublics qui veulent mieux incorporer la question des migrations dans leur stratégie. Donc un exemple très simple, c'est un petit village qui souhaiterait accueillir des personnes réfugiées mais qui a peur que ça se passe mal. Avec Waya, on va leur proposer justement un accompagnement, on va leur proposer de la formation, de manière à ce que ça se passe le mieux possible en amont, pendant et même pourquoi pas après.
On attendait, je regarde l'heure, pas qu'on s'ennuie absolument pas, mais on a l'occasion de se revoir, bien sûr, et de vous entendre sur l'antenne. Hein. Vous savez, mais il y a malheureusement un temps donné. Alors justement, pour toutes ces infos, vous parlez de plateformes, voilà, c'est en phase de construction pour les plateformes Singa, Waya. Mais là, si on veut avoir un petit peu plus d'infos justement sur ces initiatives, par quel biais?
Alors, pour l'instant, vous pouvez aller sur nos pages Facebook et Twitter. Donc, c'est Waya underscore fr.
Waya, épelez-moi, Waya.
Waya, donc c'est W-A-Y-A. Donc si vous tapez Waya sur votre barre de recherche, vous trouverez...
On va relier tout ça, bien sûr, sur le Facebook. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot.
Et Singa, c'est Singa, singafrance.com.
Oui, qu'on n'oublie pas Singa également. Exactement. Voilà, Nathanaël, je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot.
Non, mais écoutez, profitez bien de cette fête de la musique aujourd'hui. Et voilà, et puis vous verrez, je pense que... vous aurez l'occasion de voir à quel point aujourd'hui même la musique est diversifiée.
Oui, ça fait partie de la culture, c'est un lien, on le voit. Hein.
Voilà, il y a énormément.
Même des fois, quand on parle pas certaines langues,
bien sûr,
c'est un moyen également d'expression.
Hein. Exactement. Donc profitez bien de cette journée et n'hésitez pas à vous engager dans les centaines de différentes organisations qui aujourd'hui sont actives déjà à Bordeaux. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre que Singa arrive. Vous pouvez déjà aujourd'hui faire énormément de choses. Et je voulais juste aussi envoyer un petit message quand même à la Fabrique à Déclic, l'événement pour lequel je suis venu à Bordeaux, qui est un événement qui permet à des jeunes de différents milieux d'essayer de trouver ce déclic qui va déterminer le reste de leur vie. et donc font un travail incroyable. Ils ont réuni plus de 310 jeunes aujourd'hui, enfin pendant cette semaine-là à Bordeaux. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous engager dans ce type d'association-là qui joue un rôle incroyable aujourd'hui dans notre société.
Voilà, puis on a besoin d'avoir des associations comme ça, voilà, des militants. En tout cas, merci Nathanaël, et puis je pense qu'on va se revoir.
Hein. Avec plaisir.
Voilà, en tout cas, merci. Voilà, désolé, il y a un time parti. Voilà, donc désolé de vous couper dans les normes, mais on va reprendre rendez-vous. Il y a pas de souci. En tout cas, merci pour l'enthousiasme.
Merci,
on
relaiera
bien sûr. Voilà, ces infos, notamment via les réseaux sociaux et Facebook en particulier en ce qui concerne Odoradio.